Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de l'invitation. Je suis très heureux d'être là pour essayer d'abord de partager avec vous des éléments de diagnostic qui ne vont pas être particulièrement agréables de si bon matin. Et puis ensuite, peut-être des réflexions prospectives, en tout cas avec la volonté d'ouvrir des possibles en matière de réinvention de manière de cohabiter le monde. J'ai un tout petit peu changé le titre qui m'avait été imparti pour essayer de parvenir à vous expliquer ce que j'appelle le géocare, c'est-à-dire une sorte de prendre soin des espaces habités, une approche que j'essaie de développer depuis une petite vingtaine d'années maintenant, j'expliquerai pourquoi et comment. Et ce prendre soin me paraît de plus en plus important, puisque nous avons à faire face à un monde urbain planétaire de plus en plus vulnérable, et malheureusement, nous savons chaque jour un peu plus à quel point cette vulnérabilité est importante. J'aime bien commencer par cette citation, qui est une citation d'un personnage inactuel et donc profondément actuel, Paul Valéry, celui qui, en 1920, écrit « Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels », phrase très audacieuse, mais qui correspondait évidemment tout à fait à ce qu'on avait pu vivre pendant cette première guerre mondiale, lors de laquelle l'Europe avait quasiment réussi à se détruire elle-même. Et Paul Valéry, un peu plus tard, écrivait cette phrase absolument stupéfiante: Le système des causes qui commandent le sort de chacun de nous, s'étendant désormais à la totalité du globe, le fait résonner tout entier à chaque ébranlement. Il n'y a plus de questions locales, il n'y a plus de questions finies. 1931. Il n'y a plus de questions locales, il n'y a plus de questions finies. Ça veut dire qu'il faut vraiment que nous prenions conscience que tous les problèmes que nous envisageons aujourd'hui, ici à la Baule, ne sont pas baulois, ni même ceux de la communauté d'agglomération, ni même ceux de la Loire-Atlantique. Ce sont des problèmes globaux qui participent de logiques systémiques globales, on va y revenir, ce qui fait que chaque localité est porteuse de ces logiques systémiques globales, de même que chaque question locale est porteuse de cette globalité. Donc il y a quelque chose de profondément nouveau dans la manière même dont nous devons déjà constituer nos diagnostics des situations sur lesquelles nous voulons agir. Or, nous avons été éduqués pendant des siècles et des décennies, nous avons été éduqués à travailler à l'inverse de cela, c'est-à-dire à toujours essayer de localiser les questions, de les spécifier, de les purifier, hein, de les mettre dans une petite boîte dans laquelle nous pouvons les isoler de tout ce qui les entoure, de façon à déployer des ingénieries et des savoirs qui sont eux-mêmes, en général, strictement consacré à un aspect simplement d'un problème. C'est comme ça que nous avons hyper spécialisé nos manières d'intervenir sur la ville, mais aussi nos manières de soigner, nos manières d'éduquer, nos manières de produire de la valeur. Et Paul Valéry nous rappelle quelque chose que Edgar Morin, récemment disparu, nous disait également à sa façon, c'est que nous ne pouvons plus penser comme ça. Et dans nos incapacités à agir, il y a d'abord une incapacité à penser, une incapacité à affronter les problèmes. C'est pour ça que le débat sur la climatisation m'agace. Ce n'est pas parce que je suis contre la climatisation, mais tout simplement parce que je trouve que c'est une manière débile au sens étymologique du terme, c'est-à-dire chétive, fragile, condamnée à échouer. C'est une manière inepte de penser la globalité et des problèmes. Donc déjà, première chose, sommes-nous capables de penser véritablement le systématisme des phénomènes que nous avons à affronter. Ce systématisme qui concerne donc cette Terre, et cette Terre qui, depuis maintenant quelques décennies, a profondément muté. Regardez un exemple de cette mutation, une publicité parue en 1962 dans Life Magazine, une publicité mise en avant par une entreprise Humble, Humble, qui alors avait été peut-être l'entreprise qui portait le plus mal son nom de l'histoire des entreprises, puisque c'est une grande pétrolière, c'est Exxon désormais, et so Humble, qui écrivait « Each day Humble supplies enough energy to melt 7 million tons of glaciers ». Chaque jour, regardez comme nous sommes forts, nous pouvons produire assez d'énergie pour faire fondre 7 millions de tonnes de glace, de ces glaces de l'Alaska qui sont infondables, elles ne peuvent même pas fondre puisqu'elles sont tellement épaisses, et nous sommes assez puissants pour les faire fondre, métaphoriquement bien sûr. Eh bien, ce qui change entre le monde de 62 et le monde d'aujourd'hui, c'est que nous sommes passés de la métaphore à la littéralité. Et même au-delà. C'est-à-dire, nous savons aujourd'hui que nos extractions de dérivés du carbone ces extractions que nous aimons tant, rappelez-vous un des slogans de la campagne électorale de Donald Trump, la récente « drill, baby drill », fort, chéri, fort, dont la connotation sexuelle est évidente, mais il y a un lien très clair entre cet extractivisme et un certain type de virilisme masculin. Nous savons aujourd'hui que nous faisons littéralement fondre tous les glaciers, y compris ceux qui paraissaient infondables. Et ça va très vite et ça s'accélère puisque la fonte n'est pas un processus linéaire. Or, il se trouve qu'on a documenté aujourd'hui le fait que, dès le début des années 60, Exxon savait parfaitement ce qu'il en était en matière d'effet des gaz à effet de serre sur le réchauffement climatique. Mais en fait, ça fait déjà pas mal de temps qu'on le sait. Fourier découvre l'effet de serre il y a presque deux siècles. On identifie le carbone en 1867 comme principal gaz à effet de serre. Et dès les années 50-60, il y a des alertes dans les principaux cénacles scientifiques. Et le président Johnson est alerté par son conseiller scientifique personnel en 1965. Et les grandes pétrolières le savent depuis le début des années 60. Elles vont donc faire comme les industriels du tabac, c'est-à-dire organiser toute une série de médiation de manière à prouver qu'elles étaient avant tout puissantes et soucieuses du bien commun plutôt que de s'intéresser à ce qu'elles produisaient d'ores et déjà en pleine conscience de cause. Ça n'est jamais agréable à rappeler, mais il faut toujours le rappeler. Eh bien, ces décennies-là, pendant lesquelles le monde a complètement changé, ce sont les décennies qui ont été marquées par cette révolution urbaine que le philosophe français Henri Lefebvre, dès 1970, dans un livre qui s'appelle « La révolution urbaine », ce philosophe si étrange, si étonnant, qui est l'inventeur des études urbaines à la française, qui est un des auteurs les plus cités dans le monde, parce que c'est le premier à avoir compris, dans les années 60, donc, que le processus d'urbanisation qu'il pouvait observer n'était pas un processus de prolongement tendanciel de l'urbanisation au préalable, mais était une véritable mutation, une rupture dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de Sapiens, dans l'histoire des sociétés humaines. Et il dit cette révolution urbaine, il faut la penser comme une révolution parce qu'elle va bouleverser l'intégralité du décorum de toutes les sociétés. Elle va s'imposer partout. Il disait en 1970, le livre est publié en décembre 70 aux éditions Gallimard, il disait cette révolution urbaine, bien sûr, aujourd'hui elle est virtuelle, demain elle sera totale. Pour lui, une révolution urbaine, ça veut dire que rien ne va être à l'écart de ce bouleversement, de ce que l'on appelle aujourd'hui l'urbanisation planétaire, planetary urbanization, c'est l'expression qui a été forgée par Neil Brenner, qui est professeur à l'université de Chicago, qui a forgé cette expression pour insister sur le fait que l'urbanisation planétaire, elle concerne véritablement l'entièreté du globe, le globe dont je vous ai montré la photo tout à l'heure. C'est un processus global au sens littéral du mot global, un englobement. Qu'est-ce que c'est qu'un processus englobant ? C'est un processus qui concerne toutes les réalités qui sont connectées à ce processus, c'est-à-dire que toutes les réalités terrestres sont aujourd'hui englobées par l'urbanisation planétaire. Pour le dire autrement, ça veut dire que vous êtes urbanisé en tout point du globe, même si vous êtes aujourd'hui dans un espace qui paraît un espace non urbain, qui ne paraît pas un espace de ville. C'est pour ça qu'un autre débat qui m'énerve profondément, mais j'ai décidé que j'arrêtais de m'énerver, c'est mauvais pour mon estomac et pour mon cœur, c'est quand on continue d'opposer urbain et rural dans les politiques publiques, comme s'il s'agissait de deux entités clairement différentes et séparées, deux essences territoriales différentes. Non, aujourd'hui, la ruralité française, c'est une des modalités d'expression de l'urbanisation planétaire en tant qu'elle concerne la France. Et alors là, dans le territoire où nous sommes, le territoire de la grande métropole nantaise et un peu au-delà, il n'y a peut-être pas beaucoup d'endroits en France où on le remarque le mieux. Donc, cette urbanisation englobante, elle change absolument tout. Elle commence dans les années 50, elle s'accélère dans les années 80. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Elle s'accélère dans les années 80 parce que, notamment, les années 80, c'est le début de l'entrée en urbanisation de la Chine. Et ça, ça change tout. L'urbanisation chinoise, mesdames, messieurs, nous concerne. C'est une urbanisation qui a changé le monde entier. Un pays de plus d'un milliard 200 millions d'habitants qui, en une génération, va passer d'un pays massivement campagnard et paysan à un pays massivement urbain qui installe les plus grandes mégapoles contemporaines, les plus grands espaces productifs contemporains, les plus grands ports logistiques contemporains qui se développe à vitesse effrénée à partir de ces pôles urbains, qui développe une technologie qui devient, on s'en aperçoit, supérieure aux technologies qui au départ sont venues aider au développement de ce pays, ça n'est pas simplement quelque chose qui concerne la Chine, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Le monde s'est globalisé différemment depuis que la Chine s'est urbanisée, et il s'est urbanisé donc différemment. Ensuite, il y a un deuxième coup d'accélérateur après 2010. Pour sortir de la crise financière de 2008-2010, on a mis en avant des politiques de libéralité qui ont permis à l'urbanisation, en particulier à la financiarisation de l'immobilier urbain, de connaître une expansion sans précédent. Et il y a aujourd'hui une phase un peu différente, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, où on voit un transfert du centre de gravité de l'urbanisation planétaire. Le centre de gravité de l'urbanisation planétaire, ça a été plutôt la Chine et l'Asie entre 1980 et 2020. Aujourd'hui, ça reste l'Asie, mais plutôt l'Asie indienne, moins que l'Asie du Sud-Est. Et c'est surtout l'Afrique, aujourd'hui, qui devient le centre de gravité de l'urbanisation planétaire, parce qu'il y a encore des réservoirs de population très importants. C'est là où les croissances urbaines sont les plus fortes. Cette urbanisation, elle va installer beaucoup plus que seulement des espaces et des paysages nouveaux, elle va installer des modes d'organisation sociale complètement différents. Elle va installer des formes de vie habitantes complètement différentes. C'est-à-dire, en fait, elle va changer nos manières d'exister au jour le jour. Et ça, c'est Lefebvre aussi qui le premier le comprend. Il dit, nous sommes en train d'urbaniser nos manières d'habiter, nous sommes en train d'urbaniser nos cultures, nos mentalités. Nous changeons en tant qu'êtres humains parce que nous nous urbanisons. Nous ne sommes plus en 2026 les mêmes êtres humains qu'en 1950 parce que nous nous sommes urbanisés. Nous ne nous alimentons plus de la même manière, nous ne travaillons plus de la même façon, nous n'avons plus les mêmes mobilités, les mêmes sédentarités, nous n'avons plus les mêmes loisirs, nous n'avons plus les mêmes pratiques sportives, nous n'avons plus les mêmes corps. Quand je veux montrer ça à mes étudiants, je leur montre une photo de foule urbaine en 1920 et une photo de foule urbaine en 2020. La première chose qu'ils remarquent, c'est que ce ne sont plus les mêmes corps. Nous n'avons plus les mêmes corporalités parce que nous sommes urbanisés. Nous n'avons plus la même façon d'envisager nos relations au corps, les mêmes façons d'envisager nos relations aux autres. Nous n'avons plus la même façon d'envisager aujourd'hui nos relations aux non-humains. Nous ne sommes plus les mêmes humains. C'est cela qu'il faut comprendre. Mais si nous avons changé, ça veut dire que nous pouvons continuer de changer. Ça, c'est le teasing de la partie optimiste de tout à l'heure. Nous ne sommes plus les mêmes humains. L'économie n'est plus la même. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Ça paraît de plus en plus évident. On a mis du temps à s'en rendre compte. L'économie n'est plus la même. Et ce n'est pas simplement parce qu'il y a eu des délocalisations d'espaces productifs. C'est que la manière même de produire n'est plus la même. C'est que la façon même de travailler n'est plus la même, c'est que la conception même de la valeur n'est plus la même. Ce qui explique aujourd'hui les éléments de capitalisation complètement insensés en bourse d'un certain nombre d'entreprises. Ça ne choque personne que Elon Musk ait une capitalisation boursière qui est supérieure au PIB de la quatrième puissance mondiale. Mais c'est complètement insensé, en fait. Ça n'a à proprement parler aucun sens. Donc tout ça a complètement changé. Au-delà de ce qu'on peut penser, les structures sociales et culturelles, les temporalités, la manière dont nous gérons les temps. Et d'ailleurs, la crise climatique et la crise environnementale est très saisissante de ça, parce que nous commençons à comprendre que notre présent est connecté à des temps qui sont des temps géologiques et pas simplement des temps historiques. Donc ça change aussi nos rapports au temps, et la manière de pratiquer les espaces est évidemment aussi complètement différente. Le système urbain, il est très étrange. Alors là, je vais vous la faire en 2 minutes, hein, alors que je pourrais rester 3 jours. Mais non. Donc, quelques éléments de caractérisation de ce système urbain qui est si déconcertant. Le système urbain englobant, bon, là, je développe des choses que je présente dans un livre qui s'appelle Hyperlieux, hein, les nouvelles géographies de la mondialisation. J'avais fait aussi une série documentaire pour France 5 en 6 films sur ces questions-là, qui ne sont malheureusement plus accessibles sur France 5. Le système urbain englobant, comme je l'ai dit, il est hyperspatial. Hein, c'est-à-dire, en fait, que tous les espaces sont connectés à un nombre indéfini d'autres espaces. Ça renvoie un peu à ce que je disais tout à l'heure à partir de Paul Valéry. C'est-à-dire que nous devons penser en connexion et en relation autant aujourd'hui qu'en localisation. Or, l'urbanisme et l'architecture pensent d'abord en localisation, en surface, en parcelle, parce que nous avons une vision foncière d'urbanisme et d'architecture. Non, il faudra avoir une vision relationnelle qui tienne compte de cette hyperspatialité. Cette hyperspatialité, elle est valable pour les espaces, pour les temps, pour les individus, pour les entreprises, pour tout. Et cette hyperspécialité, nous pouvons la modéliser à travers ce qu'on appelle aujourd'hui les études de métabolisme urbain. C'est-à-dire quand, par exemple, quelques-uns de mes collègues, je développe cet exemple dans le livre Cohabitons dont on a mentionné le titre tout à l'heure, quand nous utilisons un smartphone, on peut cartographier le métabolisme du lithium que nous mettons en action lorsque nous utilisons un smartphone avec du lithium dans sa batterie. Nous nous connectons un système planétarisé d'hyperliens qui sont ceux de l'exploitation, du traitement et du recyclage du lithium. C'est une réalité dont nous devons prendre conscience et dont nous ne prenons absolument pas conscience. Le moindre de nos actes nous met en hyperspatialité avec les chaînes longues des relations que nous activons pour à peu près tout. Les compartiments de nos vies. Autre domaine dans lequel c'est complètement flagrant, c'est le domaine alimentaire. Si vous commencez à regarder votre assiette en pensant hyperspatialité, bah d'abord vous allez faire un régime, hein, donc vous allez maigrir, parce que vous allez complètement être attentif justement au type de lien que vous créez selon votre régime alimentaire. Ça ne veut pas dire qu'il existe un régime alimentaire sans lien, mais ça veut dire qu'il y a un régime alimentaire où vous maîtrisez mieux les chaînes distantes que d'autres. Et tout ça, évidemment, est en général masqué par le système industriel productif et de consommation, qui a plutôt intérêt, quant à lui, à ce que jamais cette hyperspatialité n'apparaisse. Mais quand vous faites un chantier, c'est la même chose. Les liens hyperspatiaux que vous entretenez avec les espaces où vous collectez la matière, les espaces où vous envoyez les déchets, les espaces où vous connectez les flux financiers entre eux, vous avez plutôt intérêt à ne pas trop le savoir. Et d'ailleurs, quelle collectivité territoriale le sait ? Y a-t-il des baromètres de métabolisme des matières dans les projets urbains ? Y a-t-il des indicateurs de jamais ? Parce que si on commençait à le faire, ça devient très inconfortable. Alors, il y a des pays où on le fait, hein. L'Autriche, la Norvège. Il y a des espaces norvégiens où l'on interdit une construction s'il y a une relation à plus de 200 km. Bon, alors, les Norvégiens, ils ne sont pas complètement vertueux parce qu'ils peuvent faire ça sur l'économie du pétrole. Donc évidemment, ça fait qu'ils ne sont pas complètement à citer en exemple, mais néanmoins, là-dessus, ils ont essayé d'objectiver le métabolisme de l'action immobilière. Ce système urbain englobant, il est également hyperscalaire, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire en fait, tous les ordres de grandeur des phénomènes sont connectés. Plus rien n'est strictement d'un ordre de grandeur. Donc moi, dès que je rencontre un élu, en général, au bout de 3 minutes, l'élu me parle de sa localité. 3 minutes, c'est généreux. En général, c'est au bout de 30 secondes. Hein. Parce que souvent, les élus, ils commencent par dire, mais je les comprends. Hein. Alors moi, ici, dans ma commune, donc je leur dis, non, jamais ma commune. Ça n'existe pas, ma commune, aujourd'hui. C'est moi, dans le système de liens hyperspatiaux et hyperscalaires, que ce lieu que j'observe me permet d'objectiver, voilà ce qui pourrait peut-être être fait. Bon, c'est évidemment une manière de penser qui est différente, mais qui est, à mon sens, plus intéressante. Donc tout est toujours synchroniquement, c'est ça qui est important, synchroniquement, c'est dans la synchronie infralocale, locale, territoriale, globale. Vous voulez un exemple ? Pas abstrait du tout. La vague de chaleur que nous venons de traverser. C'est hyper local, ça a concerné chaque corps, et on l'a bien senti. Hein. Mais c'est en même temps, synchroniquement, local, territorial et global. Ça a concerné ma région, ma ville, ma région, la France, l'Europe, le global, puisque c'est porté par le réchauffement climatique planétaire d'origine anthropique. Bon voilà, on n'en sort pas. Alors dites donc, s'il y a quelque chose dont on sait que c'est vrai, pourquoi on n'en tient pas compte quand on agit ? Mystère. L'urbanisation planétaire, elle a d'autres caractéristiques qui sont assez déconcertantes. Là aussi, je vous la fais courte. Elle est à la fois agrégative, elle concentre. Ah, on est fiers de cette concentration. Ça a été à la base des politiques de métropolisation. Hein. On voulait concentrer toujours plus, mais elle est aussi diffusive, elle diffuse. Et la diffusion n'est pas un contre-mouvement. Concentration et diffusion. Métropolisation et périurbanisation, si vous préférez, ce n'est pas un mouvement et un contre-mouvement, c'est deux mouvements, qui sont des mouvements qui s'accompagnent en permanence. C'est comme ça qu'en France, on peut constater que depuis 1964, depuis en fait le recensement de 1956, on le sait, dans le même mouvement, on a eu des processus d'affirmation des centralités et des processus d'affirmation des périurbanités, dans le même mouvement. Voilà. Donc il y a des relations entre les deux. L'urbanisation, elle est connective, elle est fondée sur la connexion et sur les points de connexion. Ce que j'appelle les hyperlieux, ce sont les espaces d'hyperconnectivité qui sont caractéristiques du monde urbain. Aéroports, grandes places publiques, shopping malls, grandes gares, grands équipements sportifs, resorts touristiques, parcs d'attractions, qui sont tous des équipements qui sont fondés sur quoi ? Sur la connectivité. Et bien, d'ailleurs, on en a eu une preuve à l'échelle 1, en 2020, pendant la pandémie. Qu'est-ce qui a disjoncté en 2020 ? C'est la déconnexion qui s'est imposée en raison de la nécessité de contrôler le virus. Ben, on s'est aperçu de quoi ? Ben, on s'est aperçu qu'en quelques semaines, si l'on déconnecte, tout s'effondre. Plus rien ne tient. Et on peut même avoir des angoisses sur l'approvisionnement en papier toilette. Plus rien ne tient. Et il faut quelques semaines pour que ça soit global, puisque le monde est tellement systémique aujourd'hui que ça va très vite. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard, les activistes les plus radicalement anticapitalistes du moment où nous parlons sont tous des activistes de la déconnexion, physique et numérique. Parce que le système urbain, il est connectif, il ne fonctionne qu'à la connexion. Le système urbain, il est extractif. On y reviendra, il faut pour qu'il fonctionne simplement jour après jour une quantité colossale de ressources qu'on n'imagine même plus. D'ailleurs, il vaut mieux pas qu'on l'imagine. On n'a jamais extrait autant de matière des sols, des sous-sols, des océans, des eaux douces. Jamais, jamais, jamais. C'est insensé. Quand on commence à essayer d'objectiver ça, ça donne le tournis. Tenez, si on faisait un atelier ici pour essayer simplement d'objectiver la quantité de matière et de ressources qu'il faut extraire des sols, des sous-sols, etc., simplement pour que nous soyons là pendant une journée, ici même, ça serait un peu inconfortable. Et on est pris dedans, hein, on est tous un peu victimes et bourreaux, hein, on est tous un peu... Alors, moi, j'estime l'être moins qu'Elon Musk, qui est mon ennemi personnel, mais néanmoins, on est un tout petit peu tous dans la même... arche, n'est-ce pas ? Et donc, on rame un peu comme on peut. Et puis, évidemment, ce système urbain, il est émissif. Il émet des gaz à effet de serre, directement, indirectement. CO2, bien sûr, mais aussi méthane, le gaz à effet de serre le plus dangereux. Méthane qui est produit notamment par les formes d'agro-industrie, l'élevage, en particulier l'élevage bovin, pour nourrir les marchés alimentaires urbains hypercarnés qui se sont développés depuis 50 ans, surcarnés. Il faudrait simplement que nous acceptions de redevenir des omnivores, véritablement, et pas des carnivores avec un peu de légumes. Donc ce méthane, il est émis en masse, mais aussi par la riziculture irriguée, par certaines formes d'agriculture irriguée. Mais nous émettons aussi des polluants dans l'air, dans l'eau. Certains de ces polluants sont dits éternels. Nous ne connaissons pas la demi-vie de leur... dégradation. Nous ne savons pas combien de temps leurs métabolites seront présents dans les organismes et dans les eaux, dans les sols. Nous avons créé ça, des polluants dont nous ne sommes même pas capables de savoir quelle est leur durée de décomposition. Polluants, air, eau, partout, au sommet de l'Everest, dans les prélèvements de glace, il y a des polluants atmosphériques, il y a des radioéléments. Dans toute la flotte, dans nos corps, dans toutes nos cellules aujourd'hui, nous sommes porteurs de métabolites. Et on continue. Confère la loi du plomb. On continue, on y va. Plastique. Partout, les plastiques. Dans les placentas des femmes aujourd'hui qui sont utilisées en France, vous savez, pour produire des médicaments, on utilise les placentas, il y a des microplastiques. Dans tous les placentas de femmes aujourd'hui en France. Plastique, déchets, que sais-je. Donc nous sommes un système tellement émissif qu'il nous déborde de nos émissions. Nous avons donc changé la Terre, comme disent aujourd'hui les spécialistes, Nous avons une terraformation urbaine, hein, formation d'une terre nouvelle, qui est tout à fait spectaculaire. Une nouvelle terre urbanisée s'est imposée, donc c'est ce que j'appelle la terraformation urbaine, et un nouvel habitant, Homo urbanus, s'est imposé. Homo urbanus, c'est le titre d'un livre de Thierry Paco en 1997, hein. On y reviendra tout à l'heure, ça fait en fait très longtemps qu'on connaît ce dont je vous parle là. Ce qui est curieux, c'est qu'il faille encore considérer ça comme une nouveauté. Et donc cette terre qui est nouvelle, qui est porteur d'une humanité qui est différente, c'est à partir de là qu'il faut commencer à poser nos diagnostics. Pas à partir des modèles intellectuels et des idéologies géographiques et territoriales qui sont celles des années 1950. Or aujourd'hui, nous sommes dans la situation où nous pensons le 21e siècle avec les outils de la fin du 19e et du début 20e. Mais vous accepteriez ça pour être soigné ? De la médecine, par exemple, on accepterait ça ? Qu'on essaye de nous soigner un cancer avec la médecine de 1880 ? Mais pourquoi on accepte ça dans le monde des politiques territoriales ? Je me pose toujours cette question. Et nous avons aujourd'hui aussi la certitude qu'en raison même de cela, nous avons créé un état biophysique de la planète inédit, totalement... Je vais de ce côté-là parce qu'autrement je ne parle qu'à ceux qui sont à ma gauche. Nous avons un état biophysique de la planète qui est complètement bouleversé par cette terraformation urbaine. Nous avons changé complètement cet état biophysique parce que, évidemment, tout ce dont nous allons parler ensuite est d'origine anthropique. On le comprend bien quand, avec les spécialistes de géosciences, on analyse ce qu'on appelle la zone critique. Il y a un observatoire mondial des zones critiques qui a été créé, qui est dirigé par un Français, le géophysicien Jérôme Gaillardet, et un observatoire auquel nous sommes nombreux à participer peu ou prou. La zone critique, c'est l'espace-temps en quatre dimensions, parce qu'il y a la dimension du temps, du cycle de l'eau, en gros. Hein. C'est l'espace à la fois latéral, en profondeur et horizontal, hein, en largeur, en longueur et en profondeur, plus le temps, qui est concerné par le cycle de l'eau. Donc c'est un espace épais, ce n'est pas simplement une surface, hein, concernée par le cycle de l'eau, donc de la basse atmosphère ou de la haute atmosphère pour nous, si vous voulez, là où les avions circulent, quoi, jusque globalement aux premières couches du sous-sol. Bien sûr, au-delà, vous avez encore des choses, et en deçà, vous avez des choses, mais disons que là, c'est 98%. De quoi ? Mais c'est 98% du déploiement des écosystèmes, du déploiement des hydrosystèmes, du déploiement de l'aérosystème, de l'atmosphère. Hein, c'est 90% aussi, ou 98% du déploiement du sociosystème. C'est là où nous habitons, en fait. Cet espace-temps à quatre dimensions, c'est là où nous habitons. Vous êtes tous et toutes actrices et acteurs de la fabrique de l'urbain. Ça, c'est votre domaine. OK ? Eh bien, il n'y a pas besoin de réfléchir longtemps pour s'apercevoir à quel point, en quelques décennies, tout ça a été complètement bouleversé. On a tout changé, allez, si vous voulez, depuis 150 ans, mais en particulier depuis 1950. On a absolument tout changé dans tous les domaines. L'eau, les sols, les écosystèmes, le fonctionnement de l'atmosphère, tout a été bouleversé par notre urbanisation et par l'impact direct, là où l'urbanisation se développe, et indirect, là où l'urbanisation se connecte, de nos manières de vivre. Les zones critiques sont dans un état qu'on ne peut pas imaginer, et c'est là où se nouent tous les grands défis de la réorientation écologique de nos manières d'habiter. L'adaptation, il le faut, mais c'est déjà trop peu. Ne rien faire, c'est trop peu. Adapter, c'est nécessaire, mais c'est trop peu. En fait, ce qu'il vaudrait, c'est complètement réorienter nos manières de faire. Et là, on n'en est pas du tout à ce niveau-là, puisqu'on peine déjà à faire accepter les nécessités et les coûts de la réadaptation. Donc, si on peine déjà à convaincre un Premier ministre qu'il ne faut pas faire des coupes claires dans le fond vert, ben ça veut dire qu'on n'est pas tout à fait à la réorientation. Donc c'est là où tout va se jouer, et je n'ai pas le temps de le dire, mais en particulier ce qui est très préoccupant, c'est les bouleversements du cycle de l'eau. Et là, ça va aller encore plus vite à mesure que, par exemple, les glaciers fondent à vitesse accélérée. J'étais dimanche face au massif du Mont Blanc. Il faisait 33 degrés à 2000 mètres. L'isotherme zéro a oscillé entre 4005 et 4009. Donc ça veut dire que le sommet du Mont Blanc était en dégel. Tous les glaciers de la vallée de Chamonix sont à vif. Il n'y a plus de couverture neigeuse. Il y a eu une tombée de neige très importante en mai. Il n'y a plus rien. Les glaciers auront disparu à moins de 4000 mètres dans 15 ans. Or, ces glaciers, ils alimentent les hydrosystèmes. Moi, j'habite le long du Rhône. Le glacier du Rhône aura disparu dans 15 ans. Le glacier du Rhône, tous les glaciers des Alpes, c'est l'alimentation des bassins d'irrigation du sud-est, du Languedoc en particulier, via les eaux de la Durance. On fera quoi quand il n'y aura plus d'eau de fonte? On va commencer à rigoler là, hein, c'est-à-dire que là, on va s'apercevoir ce que c'est la mise en question de l'habitabilité, directement. Donc le cycle de l'eau, c'est absolument terrible, mais aussi les écosystèmes, mais aussi, etc. Et puis évidemment, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus, hein, nous sommes là devant ce qui manifeste les effets de ce qu'on appelle le changement global. Le changement global, c'est plus que le réchauffement climatique, c'est la mise en lien de systèmes, du réchauffement climatique et de ses effets qui eux-mêmes sont systémiques, de l'extinction des écosystèmes. Nous vivons une phase d'extinction de la biodiversité qui est stupéfiante et qui s'accélère, et c'est stupéfiant. Et puis on voit comment c'est lié, hein. Regardez la mortalité des passereaux aujourd'hui, la mortalité de la faune, en particulier de l'avifaune, suite aux deux vagues de chaleur de mai et de juin, c'est terrifiant. Donc, climat, écosystème, hydrosystème, épuisement des ressources, et mieux que ça, maintenant on s'aperçoit que des effets systémiques commencent à se faire jour, c'est-à-dire le changement des circulations atmosphériques de moyenne et de haute altitude, et le changement des circulations océaniques. C'est ça l'idée que l'homme est une force géologique. Hein, nous avons une capacité d'action en raison de l'impact de nos activités humaines. Nous avons une capacité d'action qui est d'ampleur comparable aux grands cycles géologiques les plus importants que la science peut documenter, c'est-à-dire notamment ceux qui ont eu lieu il y a 250 millions d'années et il y a 60 millions d'années, où on a réchauffé le climat d'à peu près 5 à 7 degrés avec de la production non anthropique. À un rythme de 0,1 degré par siècle, il a fallu 10 000 ans pour réchauffer l'atmosphère il y a 60 millions d'années, il va nous falloir moins de 3 siècles pour faire aussi bien. C'est ça, être une force géologique. Sauf qu'il y a 65 millions d'années, il n'y avait pas de terre, il n'y avait pas d'être humain, il n'y avait pas de sapiens. Et vous savez, toutes les espèces qui ont cru qu'elles pouvaient s'adapter à tout, hein, y a une blague qui circule chez les géophysiciens qui est de dire que deux dinosaures se rencontrent. Il y en a un qui dit « Ouh là là, j'aime pas trop cette météorite là qui arrive » et l'autre lui dit « T'inquiète, nous les dinosaures, on a toujours su s'adapter. Ben, » nous sommes un peu les dinosaures du moment. Et ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas fuir. Hein. Je comprends qu'elle soit incommode, mais, chers amis, on ne peut pas la fuir. Il y a de menaces de plus en plus nombreuses et à toutes les échelles sur l'habitabilité de nos territoires. L'habitabilité, vous savez, c'est un concept apparemment complexe qui a été créé par les planétologues, c'est-à-dire l'étude des conditions qui permettent l'établissement du vivant. Eh bien, nous avons eu une habitabilité optimale depuis la fin de la dernière glaciation, une habitabilité qui en particulier a permis en Europe de bénéficier de conditions d'habitation tout à fait optimales, avec en particulier quelque chose qui va rentrer dans l'histoire, qui est déjà rentré dans l'histoire, ce qu'on appelait par exemple les climats tempérés. Tempéré, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'excès. Tout à l'heure, tu faisais allusion à 1987, et à la venue de M. Chirac, c'est ça? C'était le maire de La Baule, j'imagine. Donc, 1987...
Il était Premier ministre.
Ah, flûte, oui. Et donc, la planète brûle, mais nous regardons dehors. Hein. Pourtant, Jacques Chirac, ce n'était pas un marxiste-léniniste. Hein. Plus de 25 ans qu'il a... Plus de 20 ans qu'il a dit cela.
2002.
Bon, on n'a pas vraiment écouté. Lui-même n'a peut-être pas, d'ailleurs, complètement écouté ses propres paroles. Mais cette habitabilité, aujourd'hui, on sait qu'elle est... Le climat tempéré océanique que vous avez eu ici, ben, il est en train de disparaître. Quand vous avez 42 degrés à Nantes, ça ne veut pas dire un climat tempéré océanique, c'est anomalique. En 2021, il y a eu un événement, il y a eu une canicule en Colombie-Britannique, dans tout l'Ouest américain, une canicule en Colombie-Britannique, il a fait 49,6 en Colombie-Britannique, à Lytton, qui a ensuite brûlé intégralement le surlendemain, tellement c'était sec. C'est un climat pacifique, de côte ouest, donc un climat frais et humide. Les modèles climatiques les plus pessimistes disaient « bon, on pourrait peut-être aller à 42, 43, 44, 45, éventuellement, ça paraît très difficile, mais alors au-dessus de 45, c'est pas possible, nos modèles ne le prévoient pas. » 49,6. 49,6, c'est la température dans le désert du Sahara au mois d'août, en Colombie-Britannique. Ça, quand les climatologues, quand ils voient ça, ils commencent à avoir peur. Ils disent « oulala ». Qu'est-ce qui se passe? Nos climats tempérés sont en train de disparaître. Or, les climats tempérés, c'était les climats d'habitabilité optimum. Donc, cette habitabilité, elle se révèle aujourd'hui en crise. Elle est menacée, elle est altérée, elle est affectée, si vous voulez. Hein, elle est affectée et cette affect nous affecte. Et on s'en aperçoit au moment des grandes catastrophes, mais au moment aussi d'événements de plus en plus ordinaires. Mesdames, Messieurs, les vagues de chaleur ne peuvent plus être considérées comme des événements extraordinaires. Ce sont des événements ordinaires. Et on s'aperçoit bien que c'est compliqué. Et là aussi, je reviens au débat qui m'agace sur la climatisation. Les gens qui découvrent les rapports du GIEC il y a 4 jours et qui expliquent à ceux qui en parlent depuis 20 ans que quand même, ils auraient pu être un peu moins dogmatiques et accepter la climatisation dans les logements, ceux-là, quand même, il y a des coups de pied aux fesses qui se perdent. Quelle impudence ! Quelle impudence! Les mêmes qui passent leur temps à dénigrer les approches scientifiques et les faits scientifiques. Quelle impudence! Eh bien, cette habitabilité-là, mesdames, messieurs, nous s'apercevons bien qu'avec les vagues de chaleur, elle est directement mise en question, et pas simplement à notre échelle d'individus cachots. Vous avez traversé tous les espaces agricoles, là, en France, et au mois de juin, vous avez vu l'état de sécheresse, l'état de dessèchement, mais les systèmes productifs agricoles, ils ne vont pas pouvoir supporter des vagues de chaleur récurrentes et très tôt dans l'année. On va faire quoi? On va les climatiser? Ça n'a aucun sens. Les gens qui pensent que l'avenir du monde, c'est Dubaï, mais ils oublient que Dubaï, pour s'alimenter, est complètement dépendante des systèmes productifs agricoles dans les zones tempérées. S'il n'y a plus de systèmes productifs agricoles, on mange quoi? Nos croûtes? Enfin, je veux dire, il y a un moment où, quand va-t-on tout simplement faire usage de sa raison? C'est être trop kantien de dire ça, trop inspiré d'Emmanuel Kant, de dire « ça serait quand même bien que nous, les êtres humains, nous fassions usage de notre raison, nous appuyons sur les faits ». Est-ce que ça, c'est être un révolutionnaire que de le dire? Alors, on nous gargarise tous les jours dans la politique en disant « Alors, pas de punition, hein, il faut être dans le bon sens. » Mais le bon sens, c'est d'abord de regarder les réalités en face. Ce n'est pas de les fuir, n'est-ce pas? Et donc, cette habitabilité, on voit qu'elle est engagée. Et l'urbanisation actuelle, elle paraît insoutenable. Donc là, que j'accélère, parce que je vois que tu t'inquiètes, j'accélère, parce que je voudrais passer à une phase plus optimiste.
Je vais te dire, tu as 40 minutes.
Bon, formidable. L'habitabilité aujourd'hui, l'urbanisation actuelle, elle est insoutenable au triple plan économique. De vous à moi, on le sait depuis The Limits of Growth, rapport des époux Meadows, publié en 1972 à l'instigation du Club de Rome. Non, là aussi, pas des bolcheviques, le couteau entre les dents, voulant la mort du petit cheval, qui montrait qu'on ne peut pas envisager une croissance économique illimitée dans un système limité. C'est incohérent, ça n'a pas de sens. Donc on devrait le savoir. On continue de nous dire que le seul avenir, c'est la croissance économique illimitée. C'est un petit peu comme si on se disait, pas de problème, on peut continuer, on est immortel. C'est prouvé par la science. Moi, je sais que je suis immortel. Nos soucis, peut-être que vous, vous avez un petit problème, mais moi, donc je continue. Rien ne peut m'atteindre. Ben, on fait ça avec la croissance économique illimitée. Évidemment, mon exemple va vous paraître un peu bête, mais pourtant, c'est exactement ce qu'on fait. On est dans la négation d'une réalité. Donc, il y a une insoutenabilité sociale, je passe vite, parce qu'aujourd'hui, la production d'inégalités n'a jamais été aussi forte qu'auparavant. Il y a des super riches qui atteignent, je l'ai dit tout à l'heure, des niveaux de prospérité qui sont complètement, enfin qui ne veulent plus rien dire. Alors on a du mal à le comprendre parce qu'en France on est fâché avec l'arithmétique, donc on a du mal à comprendre qu'un milliard c'est pas simplement un peu plus qu'un million. Hein, on a des problèmes en France avec la croissance arithmétique versus la croissance géométrique, vous voyez, avec l'exponentielle. On n'a pas complètement compris l'exponentielle. On a dû dormir en cours de mathématiques, hein. Donc, on a du mal visiblement à le saisir. Donc, il y a des inégalités exponentielles et puis il y a une insoutenabilité écologique d'origine anthropique. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça, chers amis? Ben, alors, soit on va tout de suite sur la plage et on se bourre la gueule. De temps à autre, je vous dis que je suis tenté, hein, mais on va réserver ça pour ce soir, 19h, hein, tout près. Mais autrement, on peut se dire, bon ben voilà, on se retrousse les manches, après tout, rien n'est écrit, personne ne nous impose d'être bête. S'il y a bien un droit que nous devons avoir, c'est le droit à l'intelligence. Alors tout le monde nous dit, il faut être créatif, il faut être disruptif, Coco, hein, il faut penser hors des cadres, hein, il faut savoir bouger les lignes. Bon, bah alors bouger les lignes, c'est accepter de ne pas fuir les réalités qui dérangent. Vous savez, ça c'était le titre du film The Inconvenient Truth, hein, La vérité qui dérange, c'est le titre du film d'Al Gore, qui a été publié en 2002. Al Gore, candidat malheureux contre George Bush, lui aussi, c'est pas Joseph Staline, quoi, hein. C'est un démocrate américain de gauche, mais un démocrate américain de gauche, c'est un François Bayrou. Voilà, donc moi j'ai quand même du mal à trouver les centristes français de gauche, hein, pardon, hein, mais je suis un vieux monsieur maintenant. Donc vous voyez, Al Gore, c'est pas non plus quelqu'un qui veut tout faire péter. Mais voilà, cette vérité, elle dérange. Donc être disruptif, mesdames, messieurs, c'est pas de continuer de gober les vieilles lunes des discours dominants. Être disruptif, c'est de dire, ah bah, il faut vraiment sortir du cadre. Ok, on va sortir du cadre. Mais sortir du cadre, ça veut dire questionner toutes nos manières de fabriquer, toutes nos manières d'agir, toutes nos manières de produire l'urbain, toutes nos manières de vivre, toutes nos manières de considérer l'accès aux soins, l'accès à l'éducation, la culture, etc. Ça veut dire tout réviser. Et puis là, on va créer des choses nouvelles. Vous êtes prêts? Ok, chiche. On y va?
Vous êtes prêts?
Alors, on y va. Pour ça, j'essaye de dire, dans le livre Cohabitons, j'essaye de dire, magnifique livre, pas cher, en vente dans toutes les bonnes librairies et en signature cet après-midi à 15h30. C'est mon éditeur qui sera content, donc aux éditions du Seuil, Paris, excellente maison d'édition. J'essaye de développer dans Cohabitons, justement, une première partie du livre qui est diagnostique. Donc là, on ressort un peu avec la gueule de bois et puis on va sur la plage. Et puis après, il y a deux parties qui sont plus prospectives. Et j'essaye de dire, bon ben voilà, nos territoires de vie sont affectés. L'habitabilité est altérée. Elle est menacée d'ores et déjà, et puis à court, moyen et long terme. Il y a aujourd'hui des études qui commencent à être faites par des modélisateurs qui prévoient des extinctions d'habitabilité sur de vastes zones de la planète à l'horizon 2150. Pas des menaces, des extinctions d'habitabilité, parce qu'il fera trop chaud, il n'y aura pas assez d'eau. À l'échelle de la planète, à l'horizon 2150. Bon, on s'en fout, hein, 2150, vive le cycle du carbone, on sera dedans, alléluia. Mais bon, moi j'ai une petite fille, la dernière, elle est née en 2023, elle aura 77 ans en 2100. Elle est mignonne toute pleine, j'ai pas tellement envie qu'elle crame, moi, quoi, en fait. On peut peut-être commencer aussi à être disruptif, c'est-à-dire pas penser pour nous ici et maintenant, mais comme disait Hans Jonas, en développant un principe responsabilité qui nous permette de penser l'intérêt des générations non encore nées. On peut peut-être commencer déjà à intégrer ça, non? Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, je propose, moi, de transposer à la question qui nous occupe, une philosophie qui m'a complètement bouleversé. C'est un des grands moments de ma vie intellectuelle et scientifique. Je découvre à la fin des années 2000 la philosophie du care. Donc, je ne veux pas traduire par soin, parce qu'en français, quand on parle du soin, on parle de la thérapeutique. Alors, c'est une philosophie qui, même si elle vient de ce monde-là, est beaucoup plus large. J'ai la chance de pouvoir inviter à Lyon et de discuter avec la grande théoricienne de la philosophie du care, qui est professeure de philosophie politique à l'Université du Wisconsin, qui s'appelle John Tronto, qui a écrit en particulier ce livre « Moral Boundaries, un monde vulnérable pour une politique du care », qui est un livre absolument magique. Et en fait, c'est une philosophe qui entend développer un système général qui vise à bouleverser les modalités d'établissement des relations sociales entre les individus dans une société, donc à changer aussi la manière de faire de la politique, à partir d'une redéfinition de la conception de l'être humain et de la conception des relations que les êtres humains peuvent élaborer peuvent mettre en place avec d'autres. Et elle a cette définition du care qui est absolument stupéfiante, à tel point elle colle avec nos sujets, les sujets de l'habitat et de l'habitabilité. Une activité générique, ce n'est pas une activité spécialisée, ce n'est pas une activité thérapeutique, c'est du générique, qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde. Maintenir, perpétuer, réparer, voilà nos mots clés pour l'aménagement et l'urbanisme. Maintenir, perpétuer, réparer. Si le monde est affecté, si nos territoires de vie sont altérés, fragilisés, le care, c'est maintenir, perpétuer, réparer. Pas forcément développer. Maintenir, perpétuer, réparer. Pour que ça tienne. Pour que ça redevienne soutenable. Parce que ce qui est insoutenable, c'est ce qui s'effondre, ce qui ne peut plus être soutenu par des étés, qui ne peut plus être maintenu, réparé, perpétué. Nous avons plein d'espaces qui aujourd'hui ne sont pas maintenables, perpétuables et même réparables. Nous le savons, vous le savez encore mieux que moi, autrement on ne détruirait pas autant. Et ces espaces non maintenables ont été mis en place en masse depuis 50 ans. C'est même le type d'espace qu'on a privilégié depuis 50 ans. On est encore capable aujourd'hui de produire du logement dont on sait qu'il est insoutenable thermiquement. On est encore capable de le faire. On sait que ces espaces ne sont pas maintenables. On continue de le faire. Soyons disruptifs. Donc comment faire autrement ? De sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Voilà la philosophie du CAIR. La bonne vie, autant que possible. Tout être humain, et d'ailleurs tout non-humain, peut aspirer à la bonne vie. Au nom de quoi on priverait des individus sur cette terre de la possibilité d'avoir une bonne vie ? Au nom de quoi ? Quelle éthique ? En France en particulier, où il paraît qu'on a fait la révolution il y a quelque temps pour justement dire que tout le monde était libre et égaux en droit, et bien on a le droit tous et toutes à une bonne vie. On n'a pas le droit à rester sur un trottoir pendant des mois ou des années et scolariser ses enfants en habitant sur un trottoir. Ce n'est pas un droit, ce n'est pas une bonne vie, on ne devrait pas le souffrir. On ne devrait pas souffrir qu'il y ait des hôpitaux où il fait 40 degrés dans les salles. On ne devrait pas souffrir qu'il y ait des écoles qui soient des bouilloires thermiques, que des logements soient insoutenables pour, en général, les gens qui en plus travaillent dans les hôpitaux à 40 degrés. La bonne vie, elle est pour tous et pour toutes ou elle est pour personne ? Ce monde comprend nos corps, nous-mêmes et notre environnement, tous éléments que nous cherchons à relier en un réseau complexe en soutien à la vie. Là, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, ça c'est dans le livre, j'essaye de montrer comment c'est tout à fait fondamental parce que le care est une philosophie de la relation. C'est une philosophie relationnelle. C'est une philosophie qui s'appuie sur l'idée que pour avoir une bonne vie, il faut être capable de réguler nos interdépendances. Et puis j'essaye de transposer cette définition à la question de l'habitat, mais là je vais accélérer puisqu'il me reste 8 minutes. J'essaye de montrer qu'elle est tout à fait pertinente, cette définition, pour penser notre travail sur les espaces de vie en commun et sur la fabrique urbaine. Une fabrique qui est caractérisée aujourd'hui par le fait que c'est une fabrique de maintien beaucoup plus qu'une fabrique de développement. Ça devrait être une fabrique de maintien. Bon, de maintien direct et de maintien indirect, c'est-à-dire aussi, qu'est-ce que par une opération urbaine, je suis capable de maintenir en connectant cette opération urbaine avec ce qui n'est pas elle ? Est-ce que quand je fais tel type d'aménagement dont tu parlais tout à l'heure, Gilberto, est-ce que ça permet, par exemple, de réguler des écosystèmes qui vont rentrer en connexion ou pas avec cette opération ? Donc, comment nous essayons, nous, humains, de maintenir, perpétuer, réparer nos espaces et de le faire en tenant compte de cette philosophie du care et en tenant compte aussi du fait que nous sauverons notre habitabilité si et seulement si nous sommes capables de travailler en coopération entre humains et avec les non-humains. Mais là, je ne peux pas rentrer dans ce détail parce que ça serait trop long. C'est tout ce qui renvoie à toutes les réflexions actuelles sur ce qu'on appelle les droits des non-humains, la place des écosystèmes, des végétaux, des animaux, dans la manière dont nous devons penser aussi nos habitations. Je n'ai pas le temps, mais c'est très important dans le livre. J'essaye de montrer comment, depuis une cinquantaine d'années, on a véritablement déplacé les cadres de pensée sur ça à partir d'un article fondateur qui s'appelle « Should trees have standing ?»« Les arbres peuvent-ils plaider ?» écrit en 1972 par un juriste américain, Christopher Stone, qui est le premier à dire que les séquoias de Californie ont un droit à être défendu contre ceux qui veulent les couper. Donc ça, c'est fondamental. Comment aussi faire de l'urbanisme avec les habitants? Pas pour, avec. Déjà commencer à comprendre que nous ne pouvons plus être dans un système de client-serveur. Les habitants ne sont pas les clients du système politique, pas plus que le système politique n'est le serveur des habitants. Il faut que les habitants fassent l'effort de considérer qu'ils ne sont pas simplement dans un rapport de clientèle, dans un rapport de demande. Cohabitons, le livre il s'appelle comme ça, parce que je demande à tout le monde de se réapproprier son pouvoir d'agir en acceptant de considérer qu'un cohabitant, ce n'est pas le client mécontent d'une plateforme de service. C'est quelqu'un qui s'implique dans la redéfinition de l'habitat. Donc il faut que nous travaillions avec les habitants dans le cadre de politiques de fabrique de l'urbain ou de maintien de l'urbain complètement neuve et que nous intégrions dans cette fabrique les non-humains. Ce qui n'est pas simple. Et là, j'essaye de développer donc un géocare, hein, c'est-à-dire un care adapté aux questions d'habitabilité et d'habitation. Et je vais très vite parce qu'il faut que je termine en 3 minutes exactement, dans 4 minutes. Ce géocare, il m'incite à questionner les valeurs dominantes des systèmes productifs contemporains. Parce qu'en fait, le géocare, c'est ce que l'on appelle quelque chose qui participe de l'éthique des vertus. Les vertus, ce ne sont pas des valeurs qui tombent du ciel et qui nous seraient dictées par une puissance supérieure. La vertu, dans l'éthique des vertus, qui est une philosophie très intéressante et très particulière, la vertu au sens de l'éthique des vertus, ce sont toutes les valeurs qui nous poussent à agir. Qu'est-ce qui me pousse à agir quand je décide de faire telle ou telle chose dans l'ordre de la cohabitation? Personne n'agit sans raison. Donc l'éthique des vertus, elle essaye de cerner les valeurs qui poussent les individus à agir. Et moi, je l'ai transposée dans le domaine de l'habitation. Et j'ai essayé donc de développer cette idée d'éthique des vertus appliquée à la cohabitation. Qu'est-ce qui nous pousse à agir quand nous sommes cohabitants? Qu'est-ce qui nous pousse à établir tel type de régime alimentaire, tel type de mobilité, tel type de rapport à la diversité sociale, tel type de rapport aux écosystèmes, etc. Tel type de rapport au logement, tel type de rapport à la fraîcheur. Et j'essaye de montrer qu'il faut changer nos relations aux valeurs dominantes. Et là, j'ai des petits couples, là aussi, ça serait trop long de rentrer dans les détails. J'essaye de montrer que tous les mots à gauche, ce sont les valeurs dominantes de la globalisation contemporaine. Puissance, compétition, performance. Ça, vous n'avez qu'à écouter Donald Trump. Hein. Ou le président du MEDEF. Hein. Soyons généreux. Puissance, compétition, performance, autonomie. Je suis capable, tout seul. De faire le modèle du self-made man. Je me suis fait tout seul, comme disait Pierre Desbroches, je me suis fait tout seul et je me suis raté. Donc le self-made man, celui qui est capable de se faire tout seul, celui qui n'a besoin de personne en Harley-Davidson, hein, celui qui est capable de se considérer comme une monade isolée, il n'a pas besoin des autres, il n'a surtout pas besoin que les autres lui disent quoi que ce soit sur ce qu'il fait lui. Mais nous sommes tous des sujets souverains, intolérants au jugement des autres. Tous et toutes, nous sommes comme ça. Nous ne supportons pas qu'on nous dise « Ah, t'es sûr ? » Moi, je ne suis pas sûr que ce soit bien de faire ça. « Oh, allez, il n'y a pas mort d'homme. Puis moi, ce que je fais, ce n'est pas si important par rapport au problème global. » Si, si. C'est important. Donc déjà, sortir de l'idée de l'autonomie, sortir de l'individualisme, sortir de l'apologie du privé. Alors là, on commence à cogner hein, dès qu'on arrive à ça dans le domaine de l'immobilier. Hein. Sortir de l'apologie du privé, ça veut dire questionner le mode de propriété privée dont on a l'impression qu'il est naturel. On a complètement oublié que la propriété privée, c'est un construit historique. On a complètement oublié. Ce n'est pas donné en kit. À la naissance de Sapiens, sa propriété privée, vous voyez, ça fait pas partie de notre ADN. C'est une invention relativement récente dans l'histoire du monde. La propriété privée à l'occidental, ne serait-ce qu'en Chine, pendant très longtemps, il n'y a pas eu le modèle de la propriété privée à l'occidental. Et la Chine, c'est la plus grande puissance mondiale, continuellement, de moins 4000 à 1800. Donc déjà, si on était capable de questionner l'historicité du mode de propriété privée, alors là, c'est compliqué parce que le mode de propriété privée, c'est un des fondements de la production de valeur, notamment dans vos domaines. Donc là, ça cogne tout de suite. Hein. Puis en France, si vous dites qu'il faut questionner la propriété privée, Alors là, vous n'êtes même plus mélenchoniste, vous êtes un bolchevique, pour ceux qui savent encore ce que ce mot veut dire, une sorte de Lénine attaché à la disparition de la civilisation. Et puis, les non-humains sont des objets, hein, c'est-à-dire ils sont considérés comme des choses et des objets qu'on peut utiliser comme on veut. Ça se trouve notamment dans un traité tout à fait fondamental, qui est la théorie d'économie politique de Jean-Baptiste Say, qui, au début du 19e, est l'un des premiers à théoriser le non-humain comme une chose sans propriétaire, donc qu'on peut tout à fait valoriser comme on le souhaite et qu'on peut s'approprier au sens strict du terme. Et donc, en face, bah, vous mettez toutes les valeurs qui sont les valeurs du CAIR. Là où il y a de la puissance, vous privilégiez la vulnérabilité. Le CAIR se fonde sur un constat qui est bouleversant. C'est la condition originelle de vulnérabilité de tout vivant. C'est bouleversant parce que si vous acceptez de considérer que tout vivant est vulnérable, vous changez votre éthique et votre philosophie. Vous changez votre manière de penser les choses. Parce que devant vous, vous n'avez pas des puissants ou des entités en affirmation de puissance, vous avez des vulnérables qui sont obligés de coopérer pour créer ce que Cynthia Fleury appelle la générativité du vulnérable. Là où il y a de la compétition, donc il y a de la coopération, il y a de la performance, il faut de la robustesse, qu'ont fait les travaux d'Olivier Hamant. Là où il y a de l'autonomie, il faut privilégier l'interdépendance. Là où il y a de l'individualisme, il faut de la solidarité. Là où il y a du privé, il faut du commun. Là où il y a des non-humains objets, il faut des non-humains sujets. Et puis je terminerai juste par deux trucs rapides. Donc pour ça, je propose de développer quatre vertus cohabitantes. Ça, c'est la dernière partie du livre Cohabitons, qui est vraiment un très bon livre. Et donc, les premières vertus, c'est un couple, considération et attention, qui renvoie au premier sens du verbe care, to care about, hein, de quoi dois-je me soucier. Voilà, donc je fais dans ce livre une réhabilitation du souci comme vertu politique. Le monde consumériste et productiviste nous dit en permanence, pas de souci, ne vous souciez pas. Commander sur les plateformes à distance, commander sur Amazon, acheter Chine, pas de souci, faites-vous plaisir. Après tout, il faut bien se faire plaisir. C'est l'insouciance qui est la caractéristique de notre monde contemporain. L'insouciance ici et maintenant et pour plus tard. Construisons des mètres carrés. Oh, ne nous soucions pas de ce qui arrivera après. L'important, c'est de construire. L'important, c'est le geste performatif. Non, le souci, c'est une vertu politique majeure. De quoi dois-je me soucier? Si je veux d'abord pouvoir prendre en considération les non-encore-nés, il faut que je développe un souci qui est une action politique. Voilà, de quoi dois-je me soucier en matière d'habitabilité? Et puis les deux autres vertus, c'est le ménagement plutôt que l'aménagement et la maintenance plutôt que la construction. Et là, on voit plutôt au deuxième sens de care, to take care of. Donc, c'est ce que j'appelle les logiques de l'occupation au sens de l'activité. De quoi dois-je m'occuper? De quoi dois-je me soucier? De quoi, de qui dois-je me soucier? De quoi, de qui dois-je m'occuper? Ce sont les vertus du care. Et ça, vous pouvez ensuite les importer, ces vertus, et ça sera ma dernière diapositive, dans différents domaines que je laisse là, je ne vais pas tous les citer, qui sont pour moi des phénomènes, des domaines importants. Qu'est-ce que c'est que décarboner véritablement? Qu'est-ce que c'est que les proximités? Comment les redéfinir? Comment apporter de l'intensité urbaine alors qu'on a beaucoup d'espaces urbains qui sont extensifs, le périurbain en particulier, beaucoup trop extensifs? Comment envisager des nouveaux systèmes productifs, immobiliers y compris, ce qui impose de questionner la valeur? Comment favoriser le emploi, recyclage, la circularité? Comment cicatriser les écosystèmes urbains et les repotentialiser? Je pourrais envoyer le diaporama hein, si ça vous intéresse, si vous voulez le diffuser. Comment créer des logistiques robustes et sobres, et ça ne passera pas simplement en créant des super-conteneurs en gaz naturel liquéfié, n'est-ce pas? Il faudra inventer d'autres types de logistiques, c'est-à-dire sortir de la logique de puissance aussi et de performance, toujours plus gros, toujours plus imposant, toujours plus puissant. Comment faire des bâtiments thermiques économes en ressources? J'ai vu que vous aviez invité Philippe Madec, une des biennales. Voilà, ça fait 40 ans que Madec montre que c'est possible. Purée! On pourrait le prendre au sérieux quand même depuis, surtout que les bâtiments qu'il a construits, ils sont performants. On parlait de la terre crue tout à l'heure, on le sait, enfin, on le sait tout ça, ça marche, en fait, ça fonctionne, c'est ça qui est le pire, et pas simplement à l'échelle de la hutte individuelle. Non, on peut faire des opérations collectives, et puis comment aussi travailler ce qu'on appelle la résilience des systèmes alimentaires. Voilà, j'en terminerai avec une citation que j'aime bien, qui est d'un un iconoclaste anthropologue urbain qui s'appelle David Graeber, qui est mort il y a 6 ans maintenant, au moment de la pandémie, il a chopé un mauvais Covid, et qui disait dans un livre qui s'appelle The Ultimate Hidden Truth of the World, la vérité ultime cachée du monde. Il disait, la vérité cachée du monde, c'est que ce monde, nous le fabriquons. Nous le fabriquons. Point. Mais nous pourrions faire tout à fait autrement. Mesdames, Messieurs, on y va, on fait autrement. Je vous remercie de votre attention.